Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Le Paris-Dakar, 28 ans que cela dure, seules quelques voix se risquent encore à crier dans le désert. Hurler contre la horde sauvage ne changera sans doute rien, mais se taire serait une faute. Le Clémenceau, c'est la saga d'un ancien porte-avions bourré d'amiante que la France envoie à la casse, loin de chez elle. Quand le continent indien sert de décharge publique et le continent africain de terrain de jeu à nos sociétés néocolonialistes, notre mondoscopie cette semaine. Le Clémenceau navigue vers l'Inde, où la France l'envoie à la casse dans le chantier de démantèlement d'Alang, sur les côtes du Gujarat. Seulement voilà, une commission de la Cour suprême indienne s'oppose à l'opération, vu les informations, disons, contradictoires et floues des autorités françaises sur la quantité d'amiante toujours à bord du bâtiment. Anita Bomoni, porte-parole internationale du réseau Ban Asbestos, éliminer l'amiante, et directrice de recherche sur les cancers professionnels à l'INSERM, se bat depuis des mois aux côtés d'autres organisations pour que Paris respecte la Convention de Bâle sur les déchets dangereux.
Nous avions écrit au ministère de la Défense au mois de décembre 2004 pour justement demander l'application de la convention de Bâle appliquée au Clémenceau. Au mois de février, nous recevons une lettre le 1er février de la part du porte-parole ou enfin de quelqu'un du cabinet du ministre nous indiquant que le Clémenceau sera désamianté à 90% et qu'il en restera au maximum 22 tonnes. Et presque un an après, au mois de décembre, nous sommes convoqués au ministère de la Défense pour apprendre que le Clémenceau est sur le point de partir. Et dans la discussion avec les membres du cabinet du ministre, il nous est dit que ont été retirées au maximum 115 tonnes d'amiante. Et compte tenu des évaluations du même ministère toute l'année qui a précédé, il y avait au minimum 220 tonnes. Ça veut dire que ce qui nous a été dit en février n'est plus la même chose au mois de décembre et que les différentes estimations qui ont été produites par le ministère de la Défense sont des plus fantaisistes.
Pourtant, l'État français sait bien qu'il est surveillé, je dirais, sur cette question du désamiantage et plus généralement du démantèlement des bateaux en fin de vie. On a l'impression que chaque fois qu'il est question d'amiante, c'est très compliqué en France. Alors pourquoi finalement cette mauvaise foi, ce n'est pas à l'honneur du gouvernement français ?
Ça n'est certainement pas à l'honneur du gouvernement français et c'est vrai que j'ai un peu honte pour mon pays, sachant que nous avons interdit l'amiante et qu'il y a eu un mouvement social très fort à la mesure du drame de l'amiante en France, hein, avec des milliers de morts, qu'on envoie ainsi nos déchets vers l'Inde. Je pense que la mauvaise foi, c'est aussi illustratif des difficultés que suscite l'amiante, c'est-à-dire il y a d'abord une difficulté au niveau des effets sanitaires qui vont accompagner, je dirais, plusieurs décennies encore en référence à l'utilisation, mais il y a aussi tout le problème de gérer l'amiante en place dans des conditions de sécurité qui ne prolongent pas cette épidémie au-delà des années 2030-2040. Or, actuellement, c'est bien la difficulté majeure, à la fois du point de vue sanitaire et du point de vue économique, parce que de l'amiante, il en a été mis absolument partout. Et un bateau comme le Clémenceau, je parlais encore hier soir avec d'anciens ouvriers qui ont participé à la construction, ils me disaient qu'il n'y a pas un endroit de ce porte-avions dans lequel il n'y ait pas d'amiante sous une forme ou sous une autre.
Alors plus largement, il semble quand même que finalement les industriels de l'amiante continuent au niveau international à avoir pignon sur rue et que par exemple une organisation comme l'Organisation mondiale du commerce ne soit pas très regardante non plus.
Là on est dans une situation absolument dramatique parce que en fait, les multinationales de l'amiante ont continué à faire de la propagande pour l'utilisation de l'amiante dans les pays, les continents qui n'ont pas interdit. En fait, ils utilisent l'absence d'information, les mauvaises conditions de travail, la difficulté à construire des réglementations dans ces pays pour continuer cette propagande. Et puis, on a une division du travail dont le Clémenceau est complètement emblématique, où on fait gérer nos déchets par ces pays qui n'ont pas interdit l'amiante et où nos multinationales continuent à faire des bénéfices sur le dos de la santé des travailleurs indiens brésiliens, nicaraguayens, enfin c'est dans toutes les parties du monde.
Un pays comme le Canada continue par exemple à exporter largement sa production ?
Bien sûr, le Canada, qui a été longtemps le premier producteur mondial, je dirais qu'il a été leader pendant des décennies, qu'il l'est encore, d'une lutte pour l'amiante, exporte depuis très longtemps environ 98% de sa production vers des pays qui n'ont pas interdit l'amiante. Il y a une très faible utilisation et en fait il y a une situation au Québec en particulier où les chercheurs, les professionnels de la santé publique qui osent soulever la question de l'amiante se font très brutalement remettre à leur place par un institut qui s'appelle l'Institut du Chrysotile, qui hier était l'Institut de l'amiante et qui fait la promotion de l'amiante partout dans le monde.
Alors si l'on avait à évaluer au niveau du pourcentage au niveau mondial des pays qui ont pris conscience des méfaits sur la santé de l'amiante, quel serait ce pourcentage ?
Ce qu'on peut dire, c'est que grâce aux mouvements qui se sont constitués, en fait, la lutte sur l'amiante, ce sont des mouvements sociaux, de victimes et d'organisations syndicales, souvent épaulées et accompagnées par des scientifiques, des professionnels de santé ou de santé au travail. Et en fait, vous avez en Amérique latine, par exemple, un pays producteur comme le Brésil, qui est en même temps le premier pays d'Amérique latine dans lequel le problème de l'amiante a été posé avec un mouvement très très actif qui a obtenu l'interdiction dans un certain nombre d'États du Brésil. Mais le Brésil étant producteur, la lutte est extrêmement difficile. Donc en Amérique latine, vous avez l'Argentine, le Chili qui ont interdit, le Pérou qui est sur le point d'interdire. En Asie, vous avez le Japon qui a interdit. Il y a un réseau du sud-est asiatique pour l'interdiction de l'amiante qui lutte notamment contre l'industrie du démantèlement tel qu'il se pratique en Inde et en Thaïlande. En Afrique, vous n'avez que l'Afrique du Sud qui a véritablement engagé, au niveau politique, un revirement complet puisqu'ils étaient pays producteurs et qu'ils ont interdit l'amiante. Et puis il y a l'Europe, l'Union européenne, donc les 25 pays de l'Union, qui depuis le 1er janvier 2005 ont une interdiction dans chaque pays. Mais je dirais que dans tous les pays se pose le problème de l'amiante en place. L'OIT a décrété que l'année 2006 serait une année consacrée à la question de l'amiante. Et il y a de plus en plus, de demandes qui sont faites soit d'organisations internationales comme l'OIT, soit comme certains parlementaires de l'Union européenne qui demandent qu'on s'oriente vers une interdiction mondiale de l'amiante.
Alors, on a tous vu des reportages sur le site du chantier naval d'Alang, en Inde. L'on connaît, on a pu se rendre compte des conditions de travail des ouvriers sur place. Certains se sont étonnés dès lors de cette prise de position d'une commission de la Cour suprême indienne par rapport à ce Clémenceau. Est-ce que, pour revenir au début de notre entretien, c'est un tournant finalement dans la politique indienne sur les conditions de travail des ouvriers dans ce cas concret du démantèlement de poubelles de la mer, comme on les appelle parfois, ces navires, ces grands navires?
Je peux dire que je le souhaite de tout cœur que ce soit un revirement. Je crois en effet qu'il y a une prise de conscience en Inde et à un niveau politique très élevé d'une situation qui s'est probablement instaurée assez progressivement, mais qui est devenue quand même un scandale public, si on en juge par les articles de journaux qui sont sortis depuis 3 semaines sur cette histoire du Clémenceau, qui était précédée par un problème qui a été posé par un bateau danois qui est en attente, qui est arrivé en Inde, mais qui a été bloqué au niveau du démantèlement avec, de la part de la Cour suprême, la demande que ce bateau reparte vers le Danemark. Donc il semble effectivement que la justice indienne considère qu'il y a vraiment nécessité à ce que la Convention de Bâle soit appliquée. D'ailleurs, il y a eu l'expression de certains membres du comité de suivi de l'application de la Convention de Bâle qui ont dit qu'il n'y a aucune raison que l'Inde soit spécialisée dans le démantèlement des navires. On a les possibilités de faire une filière construction navale depuis la conception des navires jusqu'à leur déconstruction. Et il n'y a aucune raison que l'Europe ne prenne pas en charge elle-même le démantèlement de ses propres navires, qui est le sens même de la Convention de Bâle, c'est-à-dire à chacun de gérer ses filières industrielles jusqu'à la gestion des déchets.
Et pour conclure, donc, ça serait selon vous le meilleur scénario possible, à savoir le retour en France du Clémenceau et finalement son désamiantage et son démantèlement éventuellement donc en France.
Ce serait la meilleure hypothèse. Parce que ça rentrerait aussi dans ce qui se profile au niveau de l'Europe, c'est-à-dire la recherche d'une solution pour tous ces navires en fin de vie, puisque vous savez qu'il y a non seulement les navires militaires, mais les navires civils, et en particulier tous les pétroliers simples coques, qui sont maintenant interdits de circulation. Et donc l'Europe doit s'équiper, et on a en France une tradition plus que séculaire de construction navale, avec des installations qui pourraient permettre un démantèlement et un désamiantage en toute sécurité. Et il serait tout à fait honorable et plus que ça que l'État français assume complètement le retour du Clémenceau et son démantèlement exemplaire sur le sol français.
Et si ces thématiques vous intéressent, Annie Thébaumoni a publié plusieurs livres à la documentation française sur la reconnaissance des maladies professionnelles, sur le travail et les questions de santé. Qui se souvient de cette chanson de Renaud sur le Paris-Dakar? Il est vrai, elle a 15 ans, mais elle n'a pourtant pas pris une ride, car la question alors posée par l'auteur-compositeur est toujours d'actualité. Combien d'années encore ces crétins bariolés feront leur terrain de sport d'un continent entier, se demandait Renaud, qui pour dénoncer déjà le consensus généralisé des médias, enchaînait avec « obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaleux ». À la tête du mouvement critique du sport, Michel Caillat nous éclaire, convaincu qu'analyser le sport, c'est aussi penser la réalité sociale.
La révolte qui était relativement faible, déjà il y a une dizaine d'années, même s'il y a eu un collectif PADAC à une époque, mais la révolte s'est peu à peu éteinte, il faut bien le dire. Les coups de gueule qui arrivaient de temps à autre, entre autres de gens comme, malheureusement, ils ont tous disparu, René Dumont, qui connaissait quand même l'Afrique, ou Théodore Monod, ce genre de personnes. Ces coups de colère ont disparu, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Et si on veut en parler, de toute façon, on n'a pas la possibilité. Et moi, je m'en rends compte à travers le mouvement critique. J'ai essayé depuis quelques semaines d'alimenter les médias. Et là, vous êtes le premier, effectivement, le premier à intervenir, c'est-à-dire à me demander mon avis sur le Dakar, ce qui fait qu'il y a une espèce d'indifférence générale. Alors bon, je compte pas trop sur la télévision pour une simple raison, c'est que curieusement, et c'est pas nouveau non plus, France Télévisions est parrain de l'épreuve, est un des parrains, il y a un certain nombre de parrains, il y a le grand parrain qui n'est plus Telefonica, qui était la compagnie espagnole, c'est d'ailleurs pour ça que ça partait d'Espagne. Là maintenant c'est l'euro millionnaire, c'est-à-dire le jeu, la loterie portugaise, c'est d'ailleurs pour ça que c'est parti de Lisbonne. C'est le grand parrain, et puis derrière vous avez une foule de partenaires importants, et parmi ces partenaires il y a deux médias français, France Télévisions, donc France 2, France 3, et France Info. Donc il ne faut pas compter sur la télévision publique pour pouvoir faire quelques papiers un peu ou quelques reportages un peu critiques sur ce rallye. Mais ça, visiblement, ça ne choque personne qu'une épreuve qui ne se déroule absolument pas en France, d'ailleurs, plus du tout en France, où il n'y a pas d'équipe de France, etc., soit parrainée par la télévision publique.
Alors, on imagine le pourquoi de l'intérêt d'un média comme la télévision, puisque, bien sûr, sans nul doute, un Paris-Dakar, ça fait de l'image sensationnelle. D'un autre côté, ces mêmes médias, tous les jours, nous interpellent sur le respect des droits de l'homme et de la nature, au passage.
Tout à fait. Et ça, c'est le côté obscène du rallye, c'est-à-dire aller parcourir à toute vitesse des pays où la principale lutte devrait être la lutte contre la faim. Et donc, depuis 28 ans que ça dure, on dit toujours les mêmes choses. Le scandale est toujours plus évident, c'est-à-dire effectivement aller avec nos belles voitures, avec des gens qui vivent dans un pays où le PIB par habitant est à peu près de 22 000-25 000 $, alors qu'on va traverser des pays comme le Mali où c'est 800 ou 900, ou la Mauritanie à peu près 1 900, ou entre 1 700 et 1 900 $ par habitant. Eh bien, on voit effectivement que tout ça, finalement, ça se déroule sans gêner qui que ce soit. On traverse des pays qui sont meurtris par tout un tas de choses, par la famine, par la disette, par le surendettement, et puis ça gêne personne. Et ce qui me choque le plus, d'ailleurs, c'est que ça ne gêne même pas les militants des droits de l'homme. Finalement, le Paris-Dakar, maintenant, ça fait partie des meubles et ça ne choque absolument plus personne. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression effectivement que l'indifférence au mal gagne du terrain et aux inégalités d'ailleurs.
Alors, on étale ainsi le luxe technologique, pour ainsi dire, des multinationales du Nord dominateurs dans des pays qui sont les plus pauvres d'Afrique. Et finalement, pour ces pays-là, il n'y a pratiquement aucune retombée économique, puisque ce Paris-Dakar est quand même une affaire de gros sous.
Oui, c'est une affaire de gros sous. Et finalement, les retombées sont nulles, quasiment nulles, pour qui a étudié un peu le sujet. Ça, on le sait depuis très 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 longtemps. Et on se donne bonne conscience toujours, il y a cet alibi humanitaire, en disant, mais oui, on va quand même donner un peu quelque chose. Mais quand on voit les sommes énormes qui sont dépensées, parce que ce sont des budgets énormes, ne serait-ce que pour participer, moyens financiers, moyens humains, les équipes médicales, les hélicoptères, etc., etc. C'est un étalage absolument indécent. Bon, sans parler de l'énergie gaspillée pour jouer sur ce continent de la pauvreté. Non, je pense que effectivement, puis il y a le fantasme quand même aussi de puissance, de vitesse, de domination, cette idéologie de la bagnole, etc. Bon, tout ça, ça devrait entraîner une révolte totale. Cela dit, je ne dis pas que personne n'est choqué par ça. Je dis simplement que les institutions ne le sont pas, ni les associations militantes diverses. Mais je me rends compte quand même qu'au mouvement critique, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de réactions. Et finalement, les gens, il y a beaucoup de gens qui voudraient pouvoir militer, dire on fait quelque chose. Alors le problème, c'est de pouvoir joindre la pratique à la théorie, parce qu'effectivement, en théorie, on sait très bien que c'est un rallye absolument obscène. En pratique, il est très difficile. Par exemple, aujourd'hui en France, avant, à la limite, on pouvait bloquer, il y a eu quelques manifestations. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a eu les manifestations à Millau, il y a 2 ans, eh bien, finalement, le rallye, il est plus du tout en France. Et peut-être qu'il y a une raison. Le fait aussi, et je pense que vous l'avez peut-être vu, que un courageux qui a attaqué la ville de Narbonne, qui a accueilli le Paris-Dakar il y a quelques années, un courageux ancien fonctionnaire de l'ONU, vient de gagner au tribunal administratif en considérant que la subvention accordée par la ville de Narbonne était illégale puisqu'elle ne créait pas d'emploi, la subvention accordée au rallye Paris-Dakar. Donc il a avancé ça comme argument et on lui a donné raison. Et donc il y a tout un tas de raisons qui font sans doute que finalement les responsables du rallye et la société Amaury n'a plus envie que le rallye passe en France. Ce qui est peut-être le plus choquant dans tout ça, ce refus de voir et cette volonté de ne pas savoir, qui vaut pour le Paris-Dakar, mais que je constate aussi, moi, sur l'analyse du sport en général, il y a un refus de savoir sur le sport qui est absolument édifiant, ce qui entraîne ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de consensus total. C'est un sujet tabou, le sport, et donc le Dakar en fait partie.
Alors on a évoqué le peu de retombées finalement pour les populations locales. Certains nous diront, oui, on traverse des déserts, mais un désert c'est aussi un biotope. Alors qu'on se gausse partout, en France ou ailleurs, de la protection de la nature.
Exactement, on traverse la nature sans s'occuper de quoi que ce soit. Il y a une espèce de schizophrénie qui fait que finalement, ceux qui d'un côté peuvent lutter pour les droits de l'homme et pour les droits de la nature, pour le respect de la nature, se contentent de ne rien dire souvent d'ailleurs. Et donc d'accesser, il y a une espèce de complicité consciente, parfois inconsciente également, qui fait que ce rallye perdure depuis maintenant 28 ans.
Est-ce que parfois vous avez eu quand même une oreille attentive des pays concernés, des pays traversés, où là aussi, finalement, au niveau des pouvoirs, c'est l'indifférence et que finalement, au moins, on parle de leur pays pendant quelques jours?
Voilà, oui, je crois que les pouvoirs en place dans ces pays-là, finalement, satisfont pleinement du rallye. On nous dit toujours évidemment qu'ils sont pour, que les habitants sont pour, que ça les amuse, en gros que ça les amuse.
Michel Caillat nous a offert en 2002 un beau coup de gueule dans Le sport, idées reçues, aux éditions Cavalier Bleu. Le Paris-Dakar, le Clémenceau nous ont permis d'illustrer le fossé qui existe entre les beaux discours et la réalité au quotidien des rapports Nord-Sud. Notre troisième sujet se penche sur une autre dramatique réalité, celle de l'immigration et là encore du non-respect des personnes. Notre correspondante à Genève, Angélica Roger, s'entretient avec Jean-Philippe Chauzy de l'Organisation internationale pour les migrations qui s'est intéressé récemment aux problèmes rencontrés par les Ukrainiens qui travaillent à l'étranger, parfois dans des conditions d'esclavage.
Ce que l'on constate, c'est que, et ce sont des estimations, qu'il y aurait entre 2 millions, 2 500 000 Ukrainiens qui sont actuellement expatriés et un nombre considérable d'Ukrainiens qui envisagent aujourd'hui de s'expatrier. Ce que l'on constate à l'Organisation internationale pour l'immigration, c'est que nombre de ces personnes, en l'absence, si vous voulez, de véritables programmes leur permettant de s'expatrier légalement, vont faire appel à des intermédiaires plus ou moins véreux et risquent de se retrouver dans des situations d'exploitation, soit dans des situations d'exploitation dans des filières, donc d'exploitation sexuelle, soit dans des situations de travail forcé. Donc ce qu'on essaye de faire à l'OIM avec les autorités ukrainiennes, avec la société civile, les ONG, c'est de donner une information objective aux personnes qui veulent s'expatrier pour leur permettre de le faire totalement légalement. Donc on a maintenant 5 centres d'information pour les migrants qui sont donc dans plusieurs villes, dont Kiev et Odessa, et ces centres donc permettent aux personnes qui veulent s'expatrier de le faire tout à fait légalement.
On a beaucoup parlé de l'exploitation sexuelle des femmes ukrainiennes, justement. Alors la situation est-elle toujours aussi grave?
Écoutez, il y a quand même une évolution dans le sens où il y a encore 5 ans, quand on regardait à l'OIM la nationalité des femmes que l'on assistait à l'époque, par exemple dans la région des Balkans ou en Europe, on constatait que les Ukrainiennes, en termes de nombre, étaient les plus représentatives. Aujourd'hui, cela a changé. On a plutôt des femmes qui sont originaires de Moldavie, voire même de Roumanie. Et on a bien entendu toujours des femmes de nationalité ukrainienne, mais leur nombre semble être en régression. Ce qui ne veut pas dire que le nombre de victimes ukrainiennes a chuté. Ce qui peut vouloir dire, c'est que, par exemple, ces personnes ont peut-être plus de mal à sortir des filières d'exploitation pour ensuite trouver une assistance auprès de l'OIM.
Il y a d'autres exploitations des Ukrainiens et c'est celle des migrants. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui essayent de s'expatrier, de chercher du travail ailleurs. Et vous parlez d'une situation extrêmement grave de pêcheurs qui est exploité sur un bateau russe.
Oui, c'est un fait divers particulièrement tragique, mais qui illustre un petit peu le danger de cette expatriation clandestine. C'est un cas assez évocateur puisqu'on a en ce moment, on porte assistance en ce moment à 24 Ukrainiens âgés entre 18 et 50 ans qui avaient accepté il y a à peu près 10 mois une offre de travail d'un intermédiaire donc véreux pour aller travailler sur un gros bateau de pêche au large de l'île de Sakhalin. Donc vraiment on est dans le Pacifique Nord, on est dans l'extrême Est de la Russie. La réalité, malheureusement, c'est que ces personnes, quand elles sont arrivées donc sur l'île de Sakhalin, leur passeport a été confisqué et on les a forcées à travailler dans des conditions absolument inhumaines sur un vieux bateau de pêche qui n'avait aucun statut. Et ces personnes ont passé entre 6 et 10 mois à travailler 18-19 heures par jour avec de l'eau glaciale jusqu'aux genoux puisque le bateau prenait l'eau. Ils se sont retrouvés sans nourriture, ils étaient forcés et contraints de manger le poisson cru qui était utilisé pour appâter ces crabes, parce que le marché, la pêche aux crabes est extrêmement lucrative. Et donc ces personnes ont subi des violences physiques, ont été profondément traumatisées psychologiquement. Et donc maintenant que ces personnes sont de retour sur Kiev, eh bien l'Organisation internationale pour l'immigration leur apporte notamment un soutien médical, un soutien psychologique pour essayer, si vous voulez, de les réinsérer dans le monde du travail en Ukraine.
Pensez-vous qu'il y ait d'autres cas de ce genre?
Oui, bien sûr. On a malheureusement de temps en temps des histoires absolument terribles à raconter qui sont basées sur, finalement, quand on regarde ce groupe a été aidé tout simplement parce que les autorités donc russes ont décidé de de faire un check sur ce bateau qui était en train de pêcher donc illégalement au large de l'île de Sakhaline. Et ce n'est que lorsque les gardes côtiers sont arrivés à bord de ce vaisseau qu'ils ont trouvé en fond de soute, en fond de cale, ces 24 Ukrainiens qui étaient donc très très affaiblis, très amaigris, puisqu'ils avaient vécu donc entre 6 et 10 mois dans des conditions de travail extrêmement pénibles.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.